poussé à bout numéro 47. Résurrection No 4. Le temps et la saison. 24 août 2016. Pasteur Brian Kozurek. Ce matin, je voudrais continuer notre étude sur la résurrection, et cette fois nous étudierons le temps et la saison. Pour texte, nous lirons dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4:13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. 14. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour la parousie du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Remarquez que l'apôtre Paul parle de ces gens, qui vivent au moment où Dieu fait trois choses, lorsque sa présence descend d'une manière très certaine et particulière. Paul appelle cela, le temps de la parousie de Christ, et la parousie où la présence de Christ implique trois choses, que Dieu fait alors qu'il est présent ici parmi nous. Nous croyons que cette parousie de Christ, est une période de temps pendant laquelle, beaucoup de choses, constituant le ministère de Christ, à la fin des temps, s'accomplissent. La version du roi Jacques a commis une erreur, en traduisant ce mot parousia comme coming en anglais, et cette fausse traduction a amené une mauvaise interprétation de ce verset biblique de 1 Thessaloniciens 4. En 1897, J. B. Rotherham de Cincinnati, Ohio, a écrit une traduction de la Bible qu'il a appelée The Stressed Bible, Bible accentuée. Dans sa traduction, il nota ce qui suit, dans cette édition, le mot parousie est uniformément rendu présence, venue, en tant que représentant de ce mot mis de côté. Il a continué la parousie, est encore dans le futur, et peut donc encore être voilée par une mesure d'obscurité, mais que seul l'accomplissement peut dissiper, c'est ce que frère Branham a également enseigné. Il a dit que Dieu interprète sa propre parole en l'accomplissant, ce qui est exactement ce que J. B. Rotherham a dit au sujet de la parousie de Christ. Il a continué, il peut s'agir à la fois d'une période, plus ou moins étendue, au cours de laquelle certaines choses se produiront, d'un événement commençant et se terminant, comme d'une série d'interpositions divines, le Christ est ressuscité comme premier fruit, c'est-à-dire un événement. Ensuite, il revient et se porte garant, justifie sa présence, pendant laquelle il élève la sienne, c'est-à-dire un autre événement, aussi grand et prolongé soit-il, et finalement vient un autre groupe d'événements constituant la fin. Par conséquent, après tout, présence peut être la traduction la plus épanouie et la plus définitivement satisfaisante de la parousie recherchée du Fils de l'homme. Un autre auteur, Israel P. Warren D.D. de Portland, Maine, a écrit 16 ans plus tôt en 1879 au sujet de cette parousie du Christ, dont parle l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, dans son livre intitulé The Parousia au paragraphe 12 à 15, il dit, nous parlons souvent du second événement, de la seconde venue, etc. Mais les Écritures Néhémie parlent jamais d'une seconde parousie. Quelle que soit sa nature, c'est à quelque chose de particulier, qui Néhémie s'était jamais produit auparavant et qui Néhémie devait plus jamais se reproduire. Ce devait être une présence différente et supérieure à toutes les autres manifestations de lui-même aux hommes, de sorte que sa désignation devait se tenir par elle-même, sans aucune épithète qualificative autre que l'article, la présence. De ce point de vue du mot, il est évident, je pense, que ni le mot anglais coming, ni l'avènement latin, Néhémie soit le meilleur représentant du mot. Ils Néhémie sont pas conformes à son étymologie. En anglais courant, cela signifie qu'au et avènement. Néhémie soit pas conforme à la définition du mot. Il Néhémie correspond pas à l'idée du verbe, dont il est dérivé. Il Néhémie pourrait pas non plus être substitué de manière appropriée au mot plus exact, présence. Par conséquent, en substance, il n'y a pas de mot plus précis dans la langue anglaise pour expliquer ou traduire le mot grec parousia que le mot équivalent anglais présence. Il poursuit en disant, dans les cas où les traducteurs auraient utilisé ce dernier, ni le radical, racine plus grand que d'entre eux, Néhémie serait le même. Venu et avènement donnent le plus d'importance à la conception d'une approche de nous, un mouvement vers nous, parousie cependant, celle d'être avec nous, sans référence à la façon dont cela a commencé. La force de la venue ou de l'avènement se termine avec l'arrivée, mais celle de la présence commence avec l'arrivée. Venue et l'avènement sont des expressions de mouvement alors que la présence montre le repos. L'espace de temps couvert par l'action de la venue ou de l'avènement est illimité. Il peut être momentané, celui de la présence est illimité. Si nos traducteurs avaient fait avec ce mot technique, parousia comme ils l'ont fait avec baptisma en le transférant à changer, ou s'ils avaient été traduits, en utilisant son équivalent étymologique exact, présence et s'il avait été bien compris, comme il l'aurait été alors, qu'il n'existe pas de deuxième présence, je crois que toute la doctrine aurait été différente de ce qu'il est taire maintenant. Les expressions second avènement et seconde venue n'auraient jamais été entendues. On aurait enseigné à l'Église à parler de la présence du Seigneur, comme celle à partir de laquelle ses espoirs devaient être réalisés, que ce soit dans le futur ou à la période la plus reculée, celle pendant laquelle le monde devait être rendu nouveau, une résurrection à la fois spirituelle et corporelle devait être atteinte, et la justice et les récompenses éternelles administrées. Il a continué, le mot parousiste est devenu le terme officiel pour une visite d'une personne de haut rang, en particulier les rois et les empereurs visitant une province. Et pourquoi? Parce que la visite d'un roi implique beaucoup de choses que le roi souhaite faire, pendant qu'il est physiquement présent. Il Néhémie se contente pas d'aller et venir, mais pendant qu'il est là, de nombreux événements ont lieu. Remarquez que tout d'abord, Rotterdam dit, c'était encore dans le futur, mais nous le connaîtrons lors de son accomplissement. C'est presque mot à mot, ce que frère Branham déclare, quand il dit, Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Warren a également dit que le mot parousie ou présence implique le repos, et frère Branham nous a enseigné, quand le septième sceau est ouvert, il y a un temps de relaxation, qui est le repos. Et Jésus a dit dans Matthieu 11h28, venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc, venir à lui, et rester en sa présence, nous donne droit au repos, parce qu'il l'a promis. Warren a également dit, si nous avions compris que ce mot Néhémie convient pas, mais plutôt la présence, elle changera notre perception totale de la parousie de Christ. Et c'est exactement ce qu'il accomplit de manière certaine. Warren a également dit, l'Église aurait appris à parler de la présence du Seigneur, comme celle à partir de laquelle ses espoirs devaient être réalisés. Dans sa prédication intitulée « La présence de Dieu », non reconnue 6-18-64, frère Branham dit « Travaillez dans ce seul but, pour que vous reconnaissiez la présence de Jésus-Christ. Voyez-vous, s'il est présent alors, tout est réglé. Il a donné la parole. Il est là pour la confirmer. » Et puis il dit dans la même prédication « Si nous pouvions réaliser qu'il nous apparaît dans ces réunions dans un seul but et s'estère de libérer nos désirs, que nous avons en lui. Mais nous devons reconnaître sa présence. Et la façon dont vous reconnaissez sa présence, s'estère quand la parole promise pour cette heure se manifeste. Alors que l'Église se rapprochait de l'accomplissement du ministère de la parousie de Christ, nous voyons 1909 que Scofield a écrit dans son édition biblique que le mot parousie parle de la présence personnelle du Christ. Voir page 1212. Nous trouvons également, dans tout autre lexique grec, la même définition. Frère Branham a lui-même utilisé le mot présence assez souvent pour désigner cette grande apparition de Christ en cette dernière heure. Mais comme toujours, il y en a qui se jetteraient et diraient que cette présence n'estère qu'une doctrine. Mais elle ne doit pas être considérée comme une simple doctrine, car elle traîne de la présence personnelle de Christ, lui-même. Il n'est devrait être considéré comme une doctrine que de la même manière que nous dirions que Jésus estère la doctrine. Vous n'y pouvez pas dire que Jésus n'estère qu'une doctrine. Pas plus que vous n'y pourriez dire que sa présence n'estère qu'une doctrine. Le fait estère que Dieu lui-même estère descendu en cette dernière heure. D'une manière très spéciale. Qu'il n'ait l'a fait depuis 2000 ans. D. / mission laptop programme / message doctrine / mdn / voice fill / parousia book code / godisir.vavd / mission laptop programme / message doctrine / mdn / voice fill / parousia book code / godisir.wav 54-0103 page 102-263. Pensez simplement que le Seigneur Jésus même, qui était à l'époque des apôtres, Esther ici maintenant. Et s'Esther juste la fin des gentils. Un grand mouvement Esther en cours parmi les croyants surnaturels. Parce que nous croyons que Dieu Esther ici. Vous pourriez demander, comment était-il ici à l'époque des apôtres? Les gens ont tendance à mal à qui comprendre frère Branham dans ce domaine. Leur pensée remonte immédiatement à Jésus dans sa chair marchant sur les rives de Galilée. Et non à celui que Paul a rencontré sur le chemin de Damas. Oui, Paul a rencontré le même qui marchait en Galilée, mais sous une autre forme. Paul l'a rencontré sous la forme de la colonne de feu. Le même frère Branham se réfère à comme à l'époque des apôtres. Maintenant, rappelez-vous, frère Branham n'a pas dit à l'époque où Jésus marchait sur la terre dans sa chair. Mais il a dit, à l'époque des apôtres. Les gens ont tendance à lire la parole avec leur esprit, déjà formaté par l'apprentissage précédent. Frère Branham Néhémie dit pas que Jésus estère ici dans son corps physique. En fait, dans le message de grâce page 176, frère Branham dit, il n'y a qu'une différence entre celui qui estère ici ce matin, et celui qui était parmi les gens de Galilée, Esther son propre corps de chair. En fait, il dit dans la nourriture spirituelle autant convenable 167 maintenant, s'il apparaissait ici comme un corps physique, ressemblant exactement à la tête de Christ d'Hoffmann à 33 ans, et le sang coulant de ses mains, et ainsi de suite, des cicatrices des clous partout sur lui, je n'aimais l'accepterait pas. Il poursuit en disant, nous n'y croyons pas ces cultes et ces clans. Nous croyons que Dieu estère la parole. Donc, cette présence n'a pas à voir avec le corps physique du Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt avec la présence de Dieu, qui estère la parole. Toujours dans sa prédication, intitulée le procès 27 avril 1964, frère Branham dit, nous n'y cherchons pas les cicatrices des clous, nous cherchons la parole manifestée. Il continue, la vie du Christ revient sous la forme du Saint-Esprit, et non sous la forme d'une cicatrice des clous. Le corps physique est assis à la droite de Dieu pour intercéder. Mais le Saint-Esprit est venu pour continuer son œuvre. En fait, D'après sa prédication, nous voudrions voir Jésus 12 juin 1958 p. 55. Frère Branham dit, regardez. Quand il était ici sur terre, combien savent que c'était la colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert? Que c'était le Christ, l'ange de l'Alliance? D'accord. Et combien savent-ils que c'était Jésus en Jésus? Ce même esprit? Regardez. Quand ils l'ont interrogé, Saint Jean 6, en attirant votre attention sur cela, ils ont dit, vous dites que vous êtes plus grand qu'Abraham. Et dit, que, alors que tu n'as encore que 50 ans, il a dit, avant qu'Abraham n'ait mis soit, je suis dans le buisson ardent. C'est-ce vrai? Une colonne de feu. Quand il était ici sur terre, il a dit, je suis venu de Dieu, et je m'en vais à Dieu. A-t-il dit? Et puis, s'il venait de la colonne de feu, il y revenait. Après sa mort, son enterrement et sa résurrection, Saint Paul était sur sa route vers Damas et une grande lumière brillante l'a frappé au visage et l'a aveuglé. Aucun des autres Néhémie l'a vu. Paul l'a vu. Cela l'a aveuglé. Il est tombé par terre. Qu'est-ce que cette colonne de feu? Encore une fois? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Seigneur, je suis Jésus. C'est vrai? Nous voyons donc le même qui a conduit Israël à travers le désert sous la forme de la colonne de feu, puis est rentré dans le Fils de Dieu, puis est réapparu après que Jésus a été crucifié. La même colonne de feu est apparue à Paul sur son chemin vers Damas, et cette même colonne de feu est apparue en ce jour, et s'est même fait prendre en photo. Frère Branham a même cité des gens qui cherchent à ce que Jésus vienne sous forme corporelle, et dans Hébreux chapitre 3, 57-0901, page 99-73, il dit, je pensais qu'il était un homme, qu'il avait des mains cicatrisées, qu'il prétend apparaître dans les réunions maintenant, avec des cicatrices des clous sur ses mains et sa tête. Non, pas ce corps, pas dans ce corps. Voyez-vous? Il est maintenant une lumière. Saul, quand il était ici sur terre, il a dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Il était l'ange qui a conduit les enfants d'Israël dans cette lumière à travers le désert. Il est retourné à cette même lumière, et Paul l'a vu hors de l'Ancien Testament. Il a dit, je suis Jésus, l'ange de l'Alliance. Maintenant, revenons à notre texte de ce matin et reprenons au verset 16. 16 car le Seigneur lui-même, et rappelez-vous, il n'y a qu'un seul Seigneur et une seule foi, et, qu'un seul Seigneur, c'est ce qu'a Dieu lui-même. Paul nous dit donc que ce sera Dieu lui-même qui descendra du ciel avec un cri, et frère Branham nous a enseigné dans sa prédication intitulée « L'enlèvement que le cri Esther le message » L'enlèvement 4 décembre 1965 p. 75 Trois choses se produisent. Un cri, une voix, une trompette, doit se produire avant que Jésus n'apparaisse. Maintenant, un cri. Jésus les fait, tous les trois pendant qu'il descend. Un cri. Qu'est-ce qu'un cri? C'est le message qui est proclamé premièrement, le pain de vie vivant qui manifeste l'épouse. Maintenant, Dieu a une façon de faire les choses, et il ne change jamais sa politique. Il n'aime et change jamais son. Il est le Dieu immuable. Dans Amos 3, 7. Il a dit qu'il n'aime ferait rien sur la terre jusqu'à ce qu'il le révèle d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Et aussi certain qu'il l'a promis, il le fera. Nous voyons donc que l'une des trois choses que Dieu fait, Esther de proclamer un message, et il doit y avoir un prophète sur la scène pour que ce message soit diffusé. Ensuite, nous continuons à lire ce que l'apôtre Paul nous dit dans le deuxième événement qui aura lieu pendant le temps de la parousie de Christ. Et il dit car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri. C'est Esther le premier événement. Et nous savons que cet événement a eu lieu sur une période de 33 ans. Et alors le deuxième événement de la parousie sera avec la voix de l'archange. Qui Esther la résurrection. L'enlèvement 4 décembre 1965 p. 89. Un cri. Une voix. Une trompette. La prochaine chose. Esther 1. Résurrection de l'épouse endormie. Celle qui Esther morte dans les autres âges. Et puis Paul mentionne le troisième événement et avec la trompette de Dieu, qui Esther le rassemblement des saints qui sont ressuscités et de ceux qui sont encore vivants. Rassemblés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs ou dans une autre dimension. L'enlèvement 4 décembre 1965 p. 93. Par conséquent, le message appelle l'épouse ensemble. Voyez-vous? Le cri, la trompette. Le matin même avec une voix forte. Il a crié avec cette voix et a réveillé Lazare. D'une voix forte. Il s'écria, Lazare. Sors. Vous voyez? Et la voix réveille l'épouse endormie. Les morts endormis. Et la trompette. Avec le son de la trompette. Et quand elle le fait, elle appelle. Toujours une trompette appelle Israël à la fête des trompettes, vous voyez? Laquelle était la fête pentecôtiste? La grande fête dans le ciel et la fête des trompettes et, maintenant, une trompette annonçait un appel au rassemblement, appelant à la fête. Et maintenant, c'est Esther le souper de l'agneau dans le ciel, maintenant, regardez, le rassemblement de l'épouse, la fête des trompettes, le souper de noces. Nous l'avons vu par type. Et puis Paul dit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous savons que c'est Esther l'ordre de la résurrection, 17. Alors, après que les morts en Christ seront ressuscités, nous qui sommes vivants et qui serons restés, serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18. Consolés, vous donc les uns, les autres par ces paroles. Maintenant, Paul annonce l'ordre de la résurrection. Si clairement que je n'ai mis, c'est pas comment quelqu'un pourrait mal à qui comprendre cela. Et comment les mots peuvent-ils être d'un tel concret confort, pour nous Néhémie les comprenons pas. Par conséquent, ces paroles Néhémie sont pas pour l'incroyant, mais pour le croyant seulement. Et Néhémie sont pas pour le soi-disant monde chrétien en général, mais ils ont été donnés pour ceux qui suivent la colonne de feu en 7 heures. Car ces paroles parlent du Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant descendant avec un cri que frère Branham a appelé le message. Et ce cri Esther de rassembler ou d'unir un peuple élu un message qui le préparera à la voix de la résurrection. Et si la résurrection a une voix, alors nous devons nous préparer à entendre cette voix. Par conséquent, comme le cri a pris un certain temps pour progresser, la résurrection doit également consister en une période de temps, sinon Dieu n'estère pas cohérent. Maintenant, il n'estère pas nécessaire que ce soit une période aussi longue, mais ce sera une période prolongée comme Rotterdam, et Israël P. Warren l'avait souligné. C'est Esther pourquoi je crois en un ministère de résurrection où nous aurons l'attente, et nous nous rassemblerons là, sous cette tente d'où, comme Paul l'a dit, nous serons enlevés avec eux. Laissez échapper la pression. 18 mai 1962 p. 55. Il a enseigné qu'il y avait une résurrection des morts, et qu'un jour il viendrait et jugerait le monde entier. Et un jour, il Esther descendu au Jourdain de la mort, a traversé le Jourdain, Esther revenue le troisième jour en apportant la preuve qu'il y a une résurrection des morts. Alléluia. Il se leva et mangea du poisson et du pain. Il a été avec eux pendant 40 jours, se montrant vivant. Le plus grand flash d'information de l'histoire. 24 avril 1961 p. 4. Je me suis émerveillé de ces 40 grands jours. Exceptionnel. Glorieux. Où notre Seigneur était sur la terre, apparaissant à ses disciples et à d'autres après sa résurrection. Un absolu 1er décembre 1963 m.p., 25 Jésus, quand il était sur terre, loin de ce qu'ils ont vu, remarqué, il a dit, « Je viens de Dieu, l'Esprit, la lumière, la colonne de feu, et je retourne à Dieu. » Et il s'est fait chair pour mourir pour nos péchés. Puis, après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, après qu'il soit monté, les 40 jours, il monta, et le 50e jour, il revint sous la forme d'une colonne de feu parmi le peuple. Maintenant, dans 3 de ces citations, nous voyons qu'il y a eu 40 jours de ministère de résurrection auquel Jésus a participé avec ses élus. C'était le ministère de la résurrection alpha de Christ. Et ce ministère alpha résurrection de Jésus-Christ n'était pas pour les étrangers, ce n'était pas pour le monde. C'était seulement pour ceux qui étaient ses élus prédestinés. Et je crois que le ministère de la résurrection oméga du Christ de nos jours, par l'intermédiaire de son prophète William Branham, sera pareil, bien que je crois que le nombre peut être un peu plus élevé que ces jours-là, parce que frère Branham croyait qu'il serait de 1 sur 1 million. Et avec la population chrétienne mondiale de 2016 à 2,2 milliards de personnes, cela signifierait peut-être 2200 personnes dans cette tente. Être conduit 7 décembre 1965 p. 108 pendant que nous avons la tête baissée, les yeux fermés, et s'il vous plaît, inclinez votre cœur en même temps, voulez-vous? J'aimerais vous poser une question. Regardez-vous vraiment à Dieu? Et avez-vous l'impression de ne pas être là où vous devriez être à cette heure? Parce que l'enlèvement pourrait s'accomplir à tout moment. Vous voyez? Ça viendra. Et si cette déclaration que j'ai faite, il y a quelque temps est-elle vraie, il n'y aura qu'environ que 500 personnes dans l'enlèvement, c'est-à-dire à dire que la vie sera changée. Pourquoi? En prenant toute la chrétienté ensemble, catholique et tout, il n'y a que 500 millions de personnes, voyez, qui revendiquent le christianisme. Et 1 sur 1 million, soit 500 personnes. Il y a tellement de personnes disparues chaque jour à travers le monde, que nous n'y pouvons même pas nous en rendre compte. Vous voyez, ça viendra, et vous n'y le saurez même pas. Les gens vont continuer à prêcher, et à dire, voyez, et tout sera passé. Maintenant, heureusement pour nous, la population mondiale a plus que doublé et le nombre de chrétiens dans le monde est passé à 2,2 milliards de personnes se réclamant d'être chrétiens en 2010. Je n'y suis pas sûr de ce que 2016 apportera. Donc, si 1 sur 1 million tient bon, alors nous n'y voyons que 2200 personnes dans l'enlèvement. Maintenant, cela n'est mis compte pas tous ceux qui ont suivi ce message qui sont déjà passés. Mais 2200 est-ce encore un très petit nombre étant donné que j'ai personnellement enseigné à plus de 3500 ministres la doctrine du Christ partout sur cette terre. Mais je suis certain qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont reçu et qui marchent dans la lumière comme il est dans la lumière. Alors interpellez, mes frères et sœurs, parce que Jésus a dit dans Matthieu 7:14 car étroite est la porte, et resserré le chemin, qui mène à la vie, et peu de gens le trouvent. Jésus a également dit dans Matthieu 20:16 ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Et en plus, Jésus a dit dans Matthieu 22:14 car beaucoup sont appelés, invités, mais peu sont choisis. Élus, nous étudions donc le moment et la saison de la résurrection, Et nous avons vu par l'Écriture que ce sera pendant le temps de la parousie de Christ. Et puisque le cri qui est Esther le premier événement de la parousie du Christ, c'est Esther déjà accompli, nous devons alors attendre la voix, elle-même qui suit le cri, et nous savons que la voix Esther le prochain événement à s'accomplir, qui sera la résurrection. Et nous vivons dans cette génération où cela doit se produire. Maintenant, nous savons que le temps est la saison pour que la résurrection ait lieu. C'est Esther pendant la présence parousia de Christ. Mais je suis sûr que nous aimerions tous savoir plus particulièrement à partir de la Bible, s'il y a des informations plus claires, qui nous préciseront davantage, dans quelle partie de cette saison nous sommes maintenant, et quand elle aura lieu. Maintenant, je n'ai ému peut pas vous dire le jour ou l'heure, parce que Dieu a dit dans sa parole, que personne Néhémie connaîtrait le jour, ni l'heure. Mais la Bible Néhémie dit rien sur le fait de Néhémie pas connaître la semaine, le mois ou l'année. Et je crois qu'il y a suffisamment des passages bibliques, pour que nous puissions nous rapprocher de la connaissance du mois précis, sinon de la semaine même où la résurrection commencera à avoir lieu. Les cinq jonctions du temps 22 janvier 1956 p. 32 et toutes les églises, dans une certaine mesure, veulent dire qu'elles font partie de la Pentecôte, parce que c'est Esther là que ça a commencé. Et le mot, Pentecôte Esther le mot 50, où l'on rassemble les prémices des prémices de la moisson. C'était une fête de la récolte précoce, qui signifie 50, qui était après le nettoyage du sanctuaire. Et en 40 jours, ils eurent la Pentecôte. Et beaucoup d'entre vous érudits de la Bible n'auraient pas à démolir cela, parce que vous le comprenez. Et comme les chrétiens, peut-être, ont entendu vos pasteurs bien formés prêcher ces choses. Eh bien, après que cette grande chose se soit produite, c'était arrivé d'une manière qu'il Néhémie comprenait pas. Il Néhémie pouvait pas le comprendre. Il cherchait tout la venue du Christ. Nous en sommes conscients. Mais la façon dont il est revenu était si différente de la façon dont il l'avait compris. Jusqu'à ce que cela les retourne. Il Néhémie savait pas. Dieu fait habituellement cela à chaque station de jonction de son temps. C'est Esther ce qu'il a fait. Apocalypse au chapitre 4, p. 31 décembre 1960, p. 88 Jean, appelé et convoqué par le Seigneur Jésus, a promis par Dieu là-bas qu'il verrait la venue du Fils de l'homme. Pierre, Jacques et Jean, et eux qui se tenaient présents. Quand Jésus leur a parlé, leur a dit, il y a quelqu'un qui se tient ici, qui Néhémie goûta pas à la mort tant qu'il n'aura pas vu venir le Fils de l'homme. Il n'a pas dit tous ceux qui se tenaient là, mais certains. Et ils y allèrent quelques jours plus tard, et virent l'ordre de la résurrection répétée, et la venue du Seigneur. Moïse représentait les saints morts et la résurrection. Élie représentait la translation. Mais rappelez-vous, Moïse était le premier, puis, Élie. Élie devait être le messager du dernier jour, afin qu'avec lui et son groupe vienne la résurrection, viendrait le. Eh bien, ensuite viendrait l'enlèvement, je veux dire. Moïse apporta la résurrection, et Élie amena le groupe enlevé. Et là, les deux étaient représentés là-bas. Ok. Donc nous voyons qu'on nous a déjà montré l'ordre de la résurrection. Les saints morts viennent en premier, comme Moïse a été vu d'abord avec Jésus, puis ceux qui font partie des disciples de la fin des temps du prophète Élie, doivent être les saints enlevés, qui reçoivent leur changement de leur vivant. Maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà compris cet ordre. Mais il est bon de savoir que Dieu l'a déjà prévisualisé pour nous. Ensuite, nous savons que nous avons la bonne interprétation. Tournons donc nos Bibles vers Matthieu 17. Ainsi jour après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, et n'aimaient virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « N'aimez parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. » 12 « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils n'aimaient l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. » 13 « Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. » Maintenant, allons à la prédication de frère Branham, le soin certain 18 décembre 1960 p. 152, pour voir ce que le prophète confirmé de Dieu avait déclaré sur ce que nous venons de lire. Eh bien, qu'a-t-il fait ici quand il a été transfiguré? La version grecque dit, son apparence a été knagée. Oh! Regardez l'ordre de la résurrection. C'est ce qui m'a frappé à ce moment-là. Remarquez. Qui est apparu en premier? Lui. De retour ici, au chapitre suivant, le 16e chapitre, il leur dit, certains qui se tiennent ici, n'aimés mourront point, jusqu'à ce qu'ils aient vu, le royaume de Dieu venir, avec puissance. En d'autres termes, que feraient-ils? Ils verraient l'avant-première du royaume de Dieu, ils connaîtraient l'ordre de la résurrection et de la venue de Dieu. Voyez, vous, dans le 16e chapitre. Maintenant, ici il monte là-haut, et il, ce qui s'est passé, son apparence avait changé. En d'autres termes, il s'est révélé d'une autre manière. Me suivez-vous? 153 Qu'avons-nous vu, l'autre soir au sujet de la révélation de ce qu'était l'Apocalypse? L'Apocalypse signifie, un sculpteur, cela a été fait ici, en train de faire quelque chose, et puis ce qu'il fait, il tire juste le rideau, dit, voilà. Que faisait-il encore ici? Il se révéla d'une autre manière? Comment? Était-il? Dans une condition glorifiée, transfigurée, sa venue, la façon dont il vient, un Christ glorifié, transformé. Son visage brillait comme le soleil. Oh là là! Oh! Il se tenait dans la nuée, et il vient dans les nuées de gloire. Enveloppé dans une nuée. Pas un petit coup de tonnerre blanc vers le haut, mais la nuée dans laquelle il en restait une nuée de gloire, tous ses anges avec lui. Alléluia! Moi, c'est ainsi qu'il vient, venant dans une nuée de gloire. 154 Maintenant, remarquez, quand ils l'ont vu debout là. Et avant cela, ils leur apparurent, Moïse et Élie. Regardez ça. que représentait Moïse? Moïse représentait ce qui était mort et dormait dans la tombe. Parce que Moïse était mort et a été enterré, personne n'est mis à où il a été enterré. Mais il représentait ceux qui dormaient quand il est revenu. Et elle représentait ceux qui ont été changés, qui n'avaient pas à mourir. Voyez, vous, vous y êtes. Et Pierre, Jacques et Jean représentaient au reste d'Israël debout là en disant, c'est un autre Dieu en qui nous croyons. Il y avait 144 000. Où en êtes-vous, frère Wood? Sester tout. Vous voyez? Vous y êtes. Pierre, Jacques et Jean, 3. Un témoignage à donner quand il reviendra. 155. Quelle a été la première chose? La résurrection. Moïse et conjonction Élie lui apparurent. Voyez? La résurrection des morts. Et ceux qui n'ont pas à mourir, ont été changés, et se tenaient là en sa présence. Et je voudrais ajouter, remarquez qu'ils se tenaient là en sa présence, il y a votre parousie. Oh, là là. Et là, ils se tenaient, glorifiés. Et il y avait Pierre, Jacques et Jean, le reste des Juifs, regardant, disant, C'est l'ordre de la venue du Seigneur. Le voyez, vous? Voilà, la résurrection. Ils étaient là. Oh! N'est-ce pas merveilleux? 156. Remarquez maintenant, la seule chose qu'il a faite, il a enlevé son masque d'humanité et Esther est devenue dans un état glorifié. Vous voyez, il a changé son apparence. Maintenant, une autre chose. Frère Branham dit que Christ viendra dans une nuée de gloire, et dans la prédication de Frère Branham, les sept âges de l'Église 12 mai 1954 p. 37, sa grande et glorieuse présence frappa la terre. Permettez-moi d'ajouter que sa grande présence parousie, il vient dans les nuées. Oh! J'adore ça. Des nuées. Il y aura vague après vague de sa gloire, et la résurrection des saints viendra. Quand ce Saint-Esprit béni qui a vécu dans leur cœur, et qu'ils sont morts avec leur cadavre couché là, et les taches de larmes sur leurs joues, et des choses comme ça, ils sont placés ici dans un cimetière. Une grande vague de ce même esprit, et un vos. Vague après vague. Celui qui était le dernier sera le premier, et celui qui était le premier sera le dernier. Comment est-il possible qu'il en soit ainsi? C'est l'ordre de la résurrection. Je n'ai aimé connaître personne dans la génération avant moi ou la génération après moi. Je reconnaîtrai ceux de ma génération. Et chaque génération viendra avec succès, au fur et à mesure qu'elle se lèvera. Ceux qui étaient les derniers seront les premiers. Bien sûr, il faut que ce soit le cas. Voyez, vous? Je reconnaîtrai mes gens. Le prochain gars, mon père reconnaîtra ses gens, son grand-père, ses gens, descendants. Vague après vague, après vague, après vague, et les saints surgissant de partout. Néhémie, serait-ce pas merveilleux? Amen. Cela fait que les personnes âgées se sentent à nouveau jeunes. Oui. Maintenant, remarquez de près. D'accord. Viens dans les nuées. Et tous les yeux le verront. Peu importe à quel moment, ils sont morts. Ils le verront toujours. Et ceux qui l'ont transpercé, et tous les parents de la terre, gémiront à cause de lui. Malgré tout. Amen. Remarquez, il vient dans les nuées, et l'apôtre Paul nous dit ce que sont ces nuées. Dans Hébreux 12, 1, Paul dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et comme frère Branham le dit, oh, il se tenait dans la nuée, et il vient dans les nuées de gloire. Enveloppé dans une nuée, pas un petit coup de tonnerre blanc vers le haut, mais la nuit dans laquelle il en restait une nuée de gloire, tous ses anges avec lui. Alléluia. Moi, c'est ainsi qu'il vient, venant dans une nuée de gloire. Et nous avons l'image de sa présence personnelle dans les nuées de gloire où sa tête a des cheveux comme de la neige, et sa tête est entourée par les anges qui composent ses cheveux. Et vous savez, ce que Paul appelait les cheveux sur vos têtes sœurs? Il l'appelle votre gloire. 1 Corinthiens 11h15 Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Maintenant, vos longs cheveux représentent votre gloire, parce qu'ils montrent extérieurement votre obéissance à la gloire de Dieu, à ses doxa, à ses valeurs, à ses opinions, à ses jugements. Et vous portez votre soumission ouverte à ses valeurs et opinions sur votre tête comme votre couronne. En fait, elle représente votre couronne de gloire. Proverbe 16h31 Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. En d'autres termes, la personne âgée aux cheveux blancs, qui est juste ou à juste titre sage, ses cheveux blancs couronnent sa tête, et c'est une couronne de gloire, si elle est soit un esprit qui est juste. Nous voyons donc à nouveau l'association ici avec les cheveux et la couronne de gloire. Proverbe 4, 7 Voici le commencement de la sagesse, à qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes à qui est l'intelligence? Exalte-la, et elle t'élèvera, elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Encore une fois, nous voyons que les cheveux blancs sont associés à la sagesse et à une couronne de gloire. Ésaïe 62, 1 Pour l'amour de Sion et frère Branham dit que quand vous entendez parler de Sion dans les Écritures, il est question de l'épouse. Je n'ai me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem je n'ai mis prendra point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. D'où alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. 3 Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Les demeures futures 2 août 1964 p. 177 Écoutez, lisons-le. Regardez ici. Et ce jour-là, cette femme s'empara d'un homme, disant, nous mangerons notre propre pain. Portons nos propres vêtements, laisse-nous seulement porter ton nom, pour enlever notre reproche. C'est le temps de la fin que nous vivons maintenant, le mariage, le divorce et la prostitution, et ainsi de suite. En ce jour-là, la branche de l'Éternel sera belle et glorieuse. Le fruit de la terre sera excellent et comique. Eux qui s'est échappé d'Israël. Comment tu échappais à tout ce jugement? Voyez-vous? Et il arrivera que celui qui est resté en Sion, et celui qui est resté à Jérusalem, sera, voyez-vous, à Jérusalem, sera appelé saint. Même tous ceux qui sont comptés parmi les vivants de Jérusalem, vous voyez, dans lequel le Seigneur aura lavé la saleté de la fille de Sion. Rappelez-vous que c'est toujours l'épouse. Voyez-vous, et aura purifié le sang de Jérusalem. C'est le reste des Juifs plus l'épouse. Voyez-vous, et au milieu de celle-ci, l'esprit de jugement. Le feu. C'est toujours le jugement de Dieu. Quand il rend son jugement final, il vous appelle, vous justifie et vous amène à la rédemption, alors son jugement éclate sur vous. Et le Saint-Esprit et le feu purifient le péché. Alors vous êtes à lui. Même chose qu'il fait à la terre quand il la purge avec le feu. Et par l'esprit de la combustion. Maintenant, regardez, écoutez, êtes-vous prêts? Et l'Éternel créera sur chaque demeure du mont Sion, et sur son assemblée, une colonne de nuit et le jour, et une colonne de feu de nuit, car sur toute la gloire, il y aura une protection. La parole parlait Esther, la semence originale, 18 mars 1962 p. 186. Jésus Esther venu et a eu le test sur le mont Transfiguration. Ce précurseur des derniers jours, va semer pour la première pluie. Jésus sera le test entre les dénominations et les croyances qui estèrent sa parole. Quand il vient, le test, l'enlèvement de son épouse. Le premier était le mont Carmel, le second était le mont de la Transfiguration, le troisième sera le mont Sion. Gloire. Nous voyons donc que la Bible parle de lui venant avec des nuées et chaque œil le verra. Et Paul nous enseigne dans 2 Thessaloniciens que c'est-à-dire l'heure où il vient être glorifié dans ses saints. Et ainsi nous voyons la promesse dans le livre d'Ésaïe 28, 5 en ce jour. C'est-à-dire aujourd'hui, le jour de sa parousie, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Et enfin dans 1 Pierre 5. 4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors, sœurs, portez votre gloire en toute humilité, car elle représente la soumission de votre corps à celui qui estère notre gloire. Et rappelez-vous, Jésus a dit que nous devenons un avec le Père, comme il était un avec le Père, parce qu'il nous a donné la gloire que le Père lui a donnée, la doxa, les mêmes opinions et valeurs, et les mêmes jugements qui font que nous soyons un avec le Père, comme Jésus le Fils premier-né l'était avec le Père. Maintenant, permettez-moi de lire quelques citations supplémentaires sur l'ordre de la résurrection, avant de regarder de plus près la saison. Extrait du sermon du frère Branham, le témoignage 28 novembre 1963 MP, 4 La trompette de Dieu retentira. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, alors nous qui sommes vivants et serons restés. Avez-vous remarqué l'ordre de la résurrection, serait enlevé avec eux. Nous nous rencontrons avant de le rencontrer. Serait enlevé avec eux. Pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Voyez. Il estère Dieu, et puis quand il veut être adoré, c'estère ce qu'estère sa nature même, c'estère d'être adoré, parce qu'il estère Dieu. Et il sait que si nous étions là, regardez du coin de vos yeux, voyez si l'autre estère là. Mais, et alors ce Néhémie serait pas la voie complète de l'adoration libre. Quand nous sommes là, et que nous savons que nous nous sommes rencontrés d'abord, et que nous nous sommes salués, puis pour nous tenir aux côtés de celui qui en est l'auteur, et chanter les chants de la rédemption. Jéhovah Jireh parti une 5 juillet 1962 p. 6 et puis, rappelez-vous, si nous allons avant qu'il Néhémie vienne, nous serons debout et en sa présence, ou ressuscités avant que les autres Néhémies soient changés. La trompette du Seigneur sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous, les vivants et qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous nous rassemblerons avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Regardez l'ordre de la résurrection. Vous voyez, Dieu sait que nous aspirons à voir nos proches. Et si nous arrivions là pour le rencontrer en premier, nous regarderions autour de nous pour voir si maman ou papa et le reste d'entre eux étaient là. Mais voyez comment, le Saint-Esprit dans sa sagesse, nous nous rencontrons d'abord, puis quand nous y arriverons et chanterons grâce étonnante, C'est-ce à ce moment-là qu'il y aura un temps d'adoration. Vous pensez que je suis drôle maintenant? Regardez-moi là-haut. Ce sera un moment merveilleux pour moi et pour nous tous quand nous y arriverons. N'ayez pas peur, 11 mars 1961 p. 90, nous pensons à ce grand jour. Comment vous l'avez arrangé? Je ne m'y voudrais pas que vous soyez ignorant, frère, à l'égard de ceux qui dorment, que vous ne m'y souffriez pas, comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que le Christ est mort et est ressuscité le troisième jour, ainsi, ceux qui dorment en Christ viendront avec lui. Car, nous vous le disons d'après la parole du Seigneur, que nous n'y serons pas aussi gênés. Cela n'y nous gênera pas lorsque nous dormons. Et nous observons l'ordre de la résurrection. La première chose, nous nous réunissons, ce n'est que lorsque nous nous réunirons que nous irons ensemble pour le rencontrer. Les mères et les pères se rencontreront. Les enfants et les êtres chers se rencontreront, puis seront pris dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Condoléances à la famille Stanislav, 24 septembre 1960, p. 17. Alors ceux qui sont endormis n'empêcheront pas ceux qui sont éveillés à la venue du Seigneur. Car la trompette de Dieu retentira, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous serons enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Vous remarquez l'ordre de la résurrection? Nous qui sommes vivants et restons à la venue du Seigneur, Thessaloniciens, je crois au quatrième chapitre, ne devons pas empêcher ou entraver ceux qui dorment. La trompette retentira. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et observez la suite. Alors nous qui sommes vivants et restons seront enlevés avec eux. Vous voyez, nous les rencontrons d'abord. Maintenant, je me demande comment Dieu dans sa grande miséricorde, quand il serait adoré parfaitement là-bas, et quand il le savait. Il savait que si nous arrivions d'abord là pour l'adorer, et ensuite nous irons regarder autour de nous, nous demander où est bébé, et où est la mère, et où est celle-ci ou celle-là. Mais, vous voyez, il nous permet de nous rencontrer d'abord. Donc, quand vous montrez adorer devant le Seigneur, ce jour-là, elle sera avec vous. Voyez-vous? Condoléances à la famille Stanislav, 24 septembre 1960, p. 16. Je sais ce que j'ai ressenti lorsque j'ai perdu ma petite fille. Peu de temps après, j'ai vu une vision d'elle. Et vous qui avez, vous le lirez dans l'histoire de ma vie. Et je serai de nouveau avec elle, un jour glorieux lorsque la famille se réunira. Et puis ensemble, nous nous rencontrerons, où que nous soyons, dispersés à travers le monde. Si vous remarquez, l'ordre de la résurrection, ils sont endormis et s'estèrent morts. Les chrétiens n'y meurent pas, vous savez. Mais en disant à notre façon, mort. Mort signifie séparation. La mort signifie plutôt la séparation. Maintenant, en terminant, regardons une fois de plus la saison et que l'ordre nous aide à voir le temps alpha de la résurrection afin que nous puissions avoir une vue sur le temps oméga de la résurrection. Le rideau du temps de mars 1955 p. 32, frères. La botanique Néhémie signifie pas seulement fleurs et des choses. Elle signifie aussi la résurrection dans ce cas. Amen. Tout comme au printemps, lorsque les fleurs de Pâques fleurissent, tout est si joli, un type de nature. La résurrection doit venir au printemps. C'est la raison pour laquelle la résurrection est au printemps. Résurrection de tout, et sûrement le roi de la nature ressuscité, le créateur de la nature, ressuscité avec le reste de la résurrection de la nature. Reconnaître votre jour et son message, 26 juillet 1964 MP. 18 maintenant. Nous avons remarqué dimanche dernier qu'il y avait prêché les jours de fête. Et il y avait une fête de Pentecôte. Et entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes, il y a eu une longue période de temps, exactement 50 jours entre la Pentecôte et la fête des trompettes. Et 50 jours, que la Pentecôte signifie 50. Et c'était la gerbe, ou la moisson, les prémices de la récolte étaient apportées. Et nous voyons qu'il était en quelque sorte là-bas avec les prémices naturelles, représentant les prémices du Saint-Esprit à déverser sur le peuple. Et nous découvrons alors que les 50 jours ont été reçus par les gentils, que Dieu a appelé des gentils pour porter son nom, la fête de la Pentecôte. Et nous avons traversé cette longue fête de la Pentecôte. Maintenant, en fait, à partir des 50 jours, il y aurait exactement 7 sabbats. Et 7 sabbats représentaient les 7 âges de l'Église à être appelés au temps de la Pentecôte, fête de la Pentecôte, pour appeler un peuple des gentils pour son nom. Maintenant, à la fin de ces 7 sabbats qui devaient être là, il devait y avoir le jour des expiations, c'étaient les 7 trompettes. Et les 7 trompettes devaient rappeler un jour de deuil pour le sacrifice ou l'expiation. Et nous découvrons alors que c'était Israël, les 7 trompettes Néhémie, concernaient qu'Israël. Prions.